Mola Archives Sonores.
Bien, permettez-moi, mesdames et messieurs, quoi que cela ne soit pas nécessaire, de vous présenter brièvement Monsieur Emmanuel Leroy-Ladurie. Ça n'est pas nécessaire, mais enfin, il est bien de rappeler une bibliographie tout à fait riche qui a agrémenté votre carrière d'historien. Vous êtes devenu, au cours des temps, une importante personnalité de la société civile, puisque vous avez été jusqu'à l'an dernier administrateur général de la Bibliothèque nationale, et c'est avec respect que j'avance ce titre. Et nous avons tous lu des articles rédigés de votre plume brillante dans de grands hebdomadaires. Mais vous êtes surtout un universitaire de très haute volée, puisque vous êtes professeur au Collège de France. Après une carrière universitaire qui vous a amené de Montpellier à l'École pratique des hautes études. Et si je dis cela, c'est parce que je crois que Montpellier a beaucoup marqué votre vie. D'abord par un livre de mémoire que vous avez écrit à un moment donné, Paris-Montpellier, qui est absolument passionnant pour l'historien contemporanéiste que je suis. Ensuite parce que, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais dans le siècle des Platères, il y a des pages absolument admirables, très poétique sur le pays montpelliérain. Peut-être êtes-vous toujours nostalgique de la belle Méditerranée. En tout cas, votre livre le laisserait penser. Vous êtes surtout, bien sûr, un historien très fécond, puisque vous êtes dans la lignée de Fernand Braudel, dans la perspective d'une histoire large qui englobe tous les champs d'investigation, la société, la culture, l'histoire inhumaine, comme disait un chroniqueur, des climats et des plantes, la démographie, et je pense que l'ensemble de la salle connaît bien vos paysans du Languedoc qui vous mettent au sommet de l'historiographie française. Peu à peu, vous vous êtes dirigé vers des travaux toujours aussi rigoureux, mais qui s'adressent à un public plus large. Est-il besoin de parler de Montaillou, village occitan, que nous avons pour la plupart lu ici, peut-être tous, où vous êtes vraiment l'historien du vécu de ce petit village cathare? Et je me souviens avoir assisté ici même, chez Mola, à un débat très vif que vous avez eu sur ce livre avec le professeur Charlie Gounet, je ne sais pas si vous vous en souvenez, sur la notion d'Occitanie. J'étais à l'époque étudiant et j'avais participé au débat, mais modestement, puisque vous ne vous en souveniez pas tout à l'heure. C'est un petit peu dommage. Par la suite, vous avez publié le très riche Carnaval de romans, bien sûr, je n'insisterai pas sur cet important ouvrage. Et je crois que ce qui vous fait peut-être aussi tout à fait connaître du public en dehors des spécialistes, c'est évidemment votre histoire du climat depuis l'an 1000, qui est évidemment fascinante. Alors vous présentez aujourd'hui, et je ne vais pas tarder à vous laisser la parole, le premier tome, je crois, du siècle des Platères, comme vous le dites, de l'Europe du Moyen-Âge au grand siècle, à travers l'autobiographie de trois membres de cette famille. Alors je pense que ce livre a déjà un beau succès par son thème et par les pages de lecture tout à fait agréables que vous fournissez aux lecteurs et qui sont mêlées à une érudition très rigoureuse. À travers vos Platères, on fait un voyage physique, poétique, mental, culturel, à travers la France, à travers la Suisse, l'Allemagne et même la Pologne. Et surtout, l'homme est toujours présent dans ce que vous avez appelé le premier, vous le rappelez, dans un que sais-je, le beau XVIe siècle, ce qui est peut-être d'ailleurs un terme que certains récusent, je ne sais pas, mais qui apparaît comme tel dans votre ouvrage. Mais pour ne pas lasser le public et ne pas vous lasser non plus, je vous laisse immédiatement, monsieur et cher maître, la parole.
Cher Charlie, mesdames, messieurs, la dernière fois que j'étais ici, c'était avec Monsieur Chaban-Delmas, j'avais pris rendez-vous avec lui, et il était à l'heure, ce qui change beaucoup des hommes politiques parisiens, je dois dire. Mais ce n'est pas pour vous parler de ce grand homme que je suis venu ici. Et donc cet ouvrage, j'en parlerai évidemment en quelques minutes, en espérant qu'une discussion ou un débat pourra s'instaurer. C'est un vieux rêve, car j'ai connu les Platères, on devrait dire les Platères, évidemment, pas de prononciation allemande, à Montpellier, il y a près de 40 ans maintenant, car c'était des étudiants en médecine, de Montpellier au XVIe siècle, et ils sont assez connus, enfin ils étaient en tout cas assez connus à Montpellier, et grâce à des traductions en français partielles, mutilées, insuffisantes, et qui demandent maintenant, il faudrait qu'il y ait une traduction plus complète. Et puis je suis un peu des Alpes aussi, par certains côtés, j'avais connu un ouvrier de 90 ans déjà, mais qui avait été, comme le père Plater, petit gardien, petit berger à Montaille. Donc là aussi, je sentais quelque chose en commun. Alors, j'ai commencé, j'ai toujours travaillé un peu dessus, mais j'ai commencé en 1990, à m'en occuper plus sérieusement. Et puis, en début 94, je crois, monsieur Balladur m'ayant rendu très aimablement, enfin, je ne sais pas si c'était aimable, à mes chères études, comment est-ce qu'on dit, Édouard m'a limogé ou Édouard m'a tué, enfin je ne sais plus. Donc j'ai pu, je suis désolé de ce qui lui est arrivé ensuite, mais j'ai pu terminer cet ouvrage peut-être plus vite que je ne l'avais prévu. Donc au départ, il y a un enfant, les souvenirs d'un enfant montagnard qui courait, qui gardait les chèvres dans une assez grande pauvreté. Et évidemment, à Bordeaux, on s'en rend moins compte, mais avoir un troupeau de chèvres dans les Alpes, c'est toujours un problème parce que les chèvres, ça monte. Hein. À un moment, vous vous retrouvez dans les rochers et ça peut être assez dangereux. Question escalade. Du reste, ces gens-là étaient de très bons montagnards, bien sûr. Et par exemple, à un moment, Thomas Plater, c'est né en 1499, bon, il s'est marié plus tard, et il tire sa femme avec une corde, et il dit « je tire ma femme comme une vache ». Mais en fait, il a encordé sa femme, tout simplement, c'est le terme plus noble des montagnards actuels. Bref, on pensait en faire un prêtre, parce que la famille, c'était une profession d'ascension sociale. On l'a donc envoyé mendier en Allemagne avec l'idée ou bien qu'il attraperait un peu de latin, ou bien qu'il irait se faire pendre ailleurs. Et il a... C'est un garçon très ambitieux et résistant, et il est parti donc mendier avec un groupe de petits mendiants vers l'âge de 8-10 ans, et à 20 ans, il a fini avec beaucoup de mal par trouver quelqu'un qui lui a appris le latin. Il était tout galeux, tout pouilleux, et aussitôt le latin, le grec, l'hébreu, bref, c'est devenu, après une vie assez dure, un grand imprimeur, celui qui a imprimé Calvin à Bâle, et puis un grand pédagogue de la Renaissance. Et ses fils, partis de plus haut, ont pu faire des brillantes carrières. Le fils aîné, né en 1536, Félix Plater, a été étudiant à Montpellier, en médecine. Et je dois dire que les Montpelliérains m'énervaient un peu avec leur prétention à être le centre du monde intellectuel au XVIe siècle. Mais, point de vue de la médecine, après tout, je me suis rendu compte que c'était vrai. Et qu'avec un diplôme de Montpellier, on décrochait facilement un poste de médecin au XVIe siècle, près d'un prince ou dans une ville importante, etc. Après 5 ans à Montpellier, une ville que Félix Plater a beaucoup aimé, il a été là de l'âge de 16 à 20 ans, il a fait un tour de France pour revenir, passant par Bordeaux, où il a laissé justement quelques souvenirs, et puis moi j'ai un petit peu aidé aussi, je dois dire, parce que je connaissais les historiens de Bordeaux du XVIe siècle, M. Igonet, Mme Igonet, M. Angelbert et d'autres, M. Bernard. Et ayant fait un tour de France, en évitant le Massif central apparemment n'intéressait personne, désolant du reste, passant par Paris, il est revenu à Bâle, il a passé sa thèse, son doctorat, et il s'est marié, et il est devenu très vite le grand pontife de la médecine baloise, jusqu'à sa mort en 1614. Et donc ça couvre tout le XVIe siècle, cette histoire, et même le début du XVIIe. Et son frère a recommencé, son frère cadet, né d'un deuxième mariage du père, a recommencé exactement la même carrière, 30 ou 40 ans plus tard, a été étudiant à Montpellier et est devenu, succédant à son frère, le grand pontife de la médecine de Bâle. Et ça a duré comme ça pendant 3-4 générations. Les Plater étaient, pour ainsi dire, recyclables, si vous voulez. C'était les rédos faculté, qui ne se fait plus du tout maintenant, mais enfin, sauf en médecine, un peu à Montpellier, mais je vous parle il y a 30 ou 40 ans, quoi. Professorat de père en fils ou père en gendre. Ils étaient recyclables, mais les suivants n'ont pas écrit leurs souvenirs. Et on a seulement 3 qui ont écrit leurs souvenirs. C'est, semble-t-il, Le fils aîné, Félix, très motivé par cette idée d'autobiographie, qui a contraint son père, qui racontait toujours de belles histoires sur son enfance, à aller coucher noir sur blanc. Puis lui-même, qui avait pris des notes quand il avait 16 ans, les a mis au net à 72 ans. Vous voyez que ça fait un écart. Et enfin, il a incité son jeune frère à prendre des notes sur quand il était étudiant à Montpellier et dans ses voyages en Europe vers l'âge de 20 ans. Bon, le frère, ça l'amusait pas tellement. Il a plutôt fait une sorte de guide Michelin, guide bleu, enfin, ben, des cartes, je sais pas. Et puis, quand ça l'embêtait, il recopiait des passages de livres en faisant semblant que c'était de lui. Mais tout de même, il y a pas mal de choses authentiques. Et nous voilà donc devant trois documents très importants d'une même famille étalés sur, en somme, un siècle et plus d'un siècle. Alors, comment... Il y a eu... C'est assez connu. En France, c'est pas très connu, mais en Allemagne, c'est assez connu. Il y a eu beaucoup de publications en patois, en dialecte de Bâle, Schweizerdeutsch. Alors moi, j'ai appris l'allemand, du reste. Je le parle mal, mais enfin, je le lis bien. Mais là, j'avoue que ce dialecte me posait des problèmes. Je ne dirais pas que c'est aussi éloigné de l'allemand normal que le provençal du français, mais enfin, non, pas autant quand même. Mais c'est quand même assez différent. Alors, j'ai eu la chance d'avoir une assistante qui était de Bâle, qui est historienne, et qui s'est mise à ce patois du XVIe siècle, et qui m'a beaucoup aidé à le comprendre. Et donc, il y a eu, je le disais, beaucoup d'éditions. Il y a eu quelques traductions en français, mais complètement dépassées. Il faudrait une traduction complète, qui peut-être la Maison Fayard, mon éditeur, fera un jour. Traduction qui était souvent l'œuvre de fonctionnaires alsaciens qui habitaient Montpellier, qui donc comprenaient cette langue étrange et en même temps comprenaient tout l'intérêt que ça présentait pour l'histoire de Montpellier. Et puis en anglais, en japonais, il y a eu aussi. Ce sont des gens connus quand même. Mais enfin, c'est tout de même un des grands textes sur la France de la Renaissance et qui n'est pas vraiment traduit en français. Et mon livre est une première approximation de la chose. C'est un témoignage sur l'ascension sociale d'un garçon très doué et de ses enfants. C'est un témoignage sur l'Europe, sur le lien entre la France catholique et l'Allemagne ou la protestante ou la Suisse protestante. Ils sont autant allemands que suisses du reste, parce que pour eux, ces gens de Bâle, Genève, c'est très loin. Alors que Mayence, Cologne, Hambourg, tout ça, c'est très proche d'eux. Alors quand ils voyagent en France, ils sont allemands, Deutschen. Mais quelquefois, on les prend pour des espions de Charles Quint. Alors ils disent, non, on n'est pas allemand, on est suisse. Enfin, le reste du temps, ils sont allemands. Et puis la Renaissance et la Réforme, puisque Thomas Plater, l'aîné, s'est converti à la Réforme un peu après Luther et Zwingli vers 1520-1521, et a une conversion très vive, très, très rude, et puis ensuite il a mis de l'eau dans son vin et il est resté anti-curé, anti-clérical, assez anti-catholique, mais avec beaucoup d'amis catholiques. D'abord, c'est une famille, on avait besoin des catholiques. Lui-même était maître de pension, il y avait des élèves payants, mais parmi eux, il y avait des catholiques. Et puis ses fils qui étaient médecins, avaient des clients catholiques, évidemment. On ne peut pas non plus se fâcher avec tout le monde. Et enfin, la Renaissance. Ce sont des hellénistes, c'est un milieu d'humanistes, au fond. Et soit latin, grec, hébreu chez le vieux père, soit grec, surtout pour la médecine. Le goût de l'anatomie aussi. Félix Plater a vraiment disséqué tout ce qui lui tombait sous la main, quoi. Vaches, chiens, cadavres de gens condamnés à mort, enfin exécutés, bien sûr. Et même c'est l'époque où les bourreaux étaient d'excellents médecins, très très bien considérés à cause de ça. Et le maître de Félix Plater, Rondelet, grand professeur de Montpellier, avait même disséqué sa belle-sœur. C'était un type qui était complètement fou d'anatomie. Donc voilà les différents aspects de ces gens-là. J'ai donc fait un premier volume, et comme la matière est très riche, je n'ose pas dire j'en ferai encore deux, mais j'en ferai au moins encore un. J'espère, si mon éditeur, évidemment, ne se lasse pas, quoi. C'est ça le problème. Voilà.
Bien, nous vous remercions alors pour cette présentation. Avant de donner la parole à la salle, peut-être, qui aura des questions à poser,
Me permettez-vous d'ouvrir quelques débats auxquels peut-être la salle peut participer ou intervenir. Moi, effectivement, dans votre livre, on vous trouve. Moi, je ne vous connais pas beaucoup, sauf par vos écrits. Mais il me semble que vous êtes un humoriste au deuxième, troisième degré. Et en particulier, au tout début, là, il y a une allusion à « sous comme un polonais ». Il faudrait que je retrouve la page de cet étylisme à Wrocław. Wrocław, je crois qu'on dit ça comme ça, que j'avais trouvé, où vous dites au fond qu'il ne se rend compte qu'il n'est en Pologne que parce qu'il est ivre-mort, et vous dites sous, ivre, comme un Polonais. Alors, est-ce que c'est des platers? Ou est-ce que c'est une adjonction? Parce que souvent, vous mettez des points de vue modernes qui arrachent le rire. Le rire de bon aloi, oui, je trouve que c'est bon. Oui. Je trouve ça très humoristique. Peut-être que ai-je un humour méridional et que vous n'en avez pas mis. Est-ce que ce sont les platers, ou est-ce que quelquefois vous intervenez?
Je les aide un peu quand même.
Vous les aidez.
Oui, parce que j'ai notamment dans les voyages, par exemple... À Bordeaux, je connaissais bien Bordeaux par l'histoire de Bordeaux, du moins par les historiens, M. Bernard et autres, et j'ai essayé de voir Platère, à Bordeaux, à travers les yeux de Platère, mais enfin, en les aidant, j'aurais mis un peu des lunettes aussi, puisque je savais à peu près comment était Bordeaux au XVIe siècle. Effectivement, l'expression « sous comme un Polonais », »,« sous comme un lord », on disait aussi autrefois.
Ah bon, oui. Et on le disait comme un Polonais aussi.
Ça c'est Udi, mais c'est-à-dire que je pense que les Méditerranéens et les Bordelais aussi sont des gens qui sont bien habitués au vin, et en particulier les religions méditerranéennes, le christianisme et le paganisme avec Bacchus avaient bien maîtrisé le vin. Tandis que le vin importé ensuite... vers le nord, les gens, c'était une découverte, se renversaient absolument l'urne ou l'amphore jusqu'au fond du gosier, et s'écroulaient ivre-mort.
Oui, mais vous le dites à un moment, que en tant que médecin, ils se rendent compte de cela. Autre question, votre description alors de ce Tour de France, qui rappelle, vous le dites, un peu le Guide Bleu, c'est un peu aussi le Tour de France de deux enfants, avant la lettre. Et personnellement, je vous le dis, hein, je ne suis pas là pour vous envoyer des fleurs, mais j'ai lu ce livre dans le week-end, je l'avais acheté pour le lire cet été, puis on m'a demandé de vous poser quelques questions, et franchement, je me suis régalé, en particulier justement par la description des villes. Il y a des descriptions qui sont particulièrement heureuses, en particulier Avignon, j'ai trouvé très agréable. Et puis, en se rapprochant d'ici, ce qui plaira, je pense, à tous les lecteurs, c'est le voyage d'Agen à Bordeaux. Et à un moment donné, vous dites, page 344, « En dépit de telles taches sanglantes à son blason, le papisme bordelais est plus proche des idées de Montaigne que de celles qui caractériseront les papistes de Toulouse et le fanatisme des Guisards ou d'un cardinal de Lorraine très motivé. » Est-ce que vous avez décelé à travers les platers ou à travers vos travaux, justement, cet esprit de bordelais fait de modération, y compris politiquement, c'est pour ça que tout à l'heure vous avez commencé fort, mais dans cette ère de modération, je pense que tout passe bien. Est-ce qu'on pouvait le percevoir au XVIe siècle? Pour vous, ce n'est pas un hasard que Montaigne soit bordelais?
Bien, évidemment, la modération de Montaigne vient un peu plus tard, mais Toulouse était quand même assez durement anti-protestant, avec presque peut-être une sorte de catholicisme d'inquisition. Une minorité protestante qui était forte aussi. Il me semble qu'à Bordeaux, c'est moins violent. Évidemment, la grande phase du modérantisme bordelais, ce sont les années 1570. C'est un peu plus tard. C'est quand Montaigne, au fond, découvre les politiques, la possibilité d'un centrisme politique avec Matignon, le gouverneur de Bordeaux. Il devient ensuite partisan d'Henri de Navarre, qui deviendra Henri IV. Et il est certain que Bordeaux n'a jamais basculé vers le protestantisme, mais aussi a eu une forme de catholicisme peut-être plus modérée que Toulouse. Oui.
Oui, vous l'avez ressenti. Oui. En tout cas, votre description de Bordeaux, je ne sais pas si des personnes ont déjà lu le livre, est tout à fait agréable. Et on voit vraiment, pour des Bordelais, ou comme moi, des Bordelais de vieille date, il est certain qu'on voit apparaître la ville telle qu'elle devait être à l'époque. Et évidemment, vous avez, dans votre description des villes, mis beaucoup de lectures autres que Plater.
Oui, oui, oui.
Parce que votre bibliographie est impressionnante sur les villes.
Eh bien, j'ai eu la chance d'être à la Bibliothèque nationale. Comme administrateur, j'avais des droits, évidemment, supérieurs peut-être au lecteur moyen. Donc, lorsque j'avais une ville, une petite ville, même au XVIe siècle, j'avais un ami conservateur qui me faisait une bibliographie. Et j'avais libre non seulement la collection Briva, qui est une très grande chose, inégale, mais tout de même avec vraiment une source extraordinaire, mais aussi les brochures des curés, des médecins, des qui ont écrit sur l'histoire de leur ville, avec possibilité de photocopie. Donc j'avais ça en 10 minutes sur ma table. Et j'ai pu ainsi faire ce voyage avec les plateaux.
C'est une véritable mine. Vous faites même un détour. C'est amusant parce que vous faites même un détour par La Rochelle en regrettant que les plateaux n'y soient pas passés.
Oui. Mais son frère y est passé, donc je garde ça pour le volume suivant.
Mais vous en faites, enfin, moi qui connais bien La Rochelle, vous en faites une description tout à fait sympathique. Et j'ai constaté que La Rochelle n'était pas très loin de Bordeaux au niveau de la population au XVIe siècle, ce qui est une des découvertes dans cet ouvrage. Autre question sur les villes, j'ai été très, très surpris de la présence de villes que personnellement je ne connaissais que de nom, comme Célestat, que vous qualifiez de grand foyer d'humanisme au XVIe siècle. Oui. Mais il y avait donc quelque chose à Célestat.
Ah, tout à fait. Je crois que c'était un peu le système du campus américain actuel où parfois dans des toutes petites villes du Middle West, vous avez des prix Nobel, des gens comme ça. Et Bâle, par exemple, avec 12 000 habitants, est une grande ville de culture avec des imprimeurs, des professeurs, etc. Et des intellectuels de bon niveau. Il faut dire que ce sont souvent des réfugiés protestants et autres. Et Célestat, en Alsace, est une capitale de l'humanisme grâce à un très grand érudit qui s'appelait Beatus Rhenanus, nom latinisé. Et je connais le maire de Célestat. J'ai essayé qu'il en avait un peu plein les oreilles de Beatus Rhenanus. Je dis, mais non, écoutez, je vous assure, c'est un très grand homme. Enfin, je sais pas si je l'ai vraiment convaincu. Et c'est vraiment une capitale de l'humanisme. Ils attiraient beaucoup d'étudiants, mais comme les étudiants vivaient de mendicité, à un moment, quand il y avait trop d'étudiants, le marché des aumônes était tari. Donc ça posait des problèmes. Il fallait aller ailleurs, à ce moment-là.
Oui, alors à propos justement du périple, là, je me permets de vous poser des questions de curiosité hein, qui me sont venues. Vous dites à un moment donné que ils ont l'impression qu'on parle français à partir de l'aréole. Et après, bon, vous définissez bien la frontière entre la Saintonge et la Guyenne, bien sûr. Un peu plus loin, vous dites bien que le français Doyle est parlé à partir de Mirambeau. C'est d'ailleurs très sympathique, ce voyage, hein, pour les gens de la région, qui le font fréquemment. C'est très agréable de le refaire avec vous. Pourquoi le français à l'aréole? On parlait français à Bordeaux
Écoutez,
ou alors j'ai mal lu. Hein.
Oui, d'après mes souvenirs, il y a d'une part un petit secteur de langue française sur la Garonne à cause des gens qui ont repeuplé ce pays après les guerres de Cent Ans. Et puis d'autre part, alors la limite linguistique, je l'ai...
Oui, vous l'indiquez.
Et évidemment, en général, plus au nord, donc au nord de Blaye, oui, de Blaye, je sais pas comment on doit prononcer.
Blaye.
Au nord de Blaye, oui, c'est ça.
Blaye.
Ce qu'il y a, c'est Félix Plater, son frère, je sais pas, mais Félix Plater, au fond, pour lui, il y a deux catégories d'humanité, du reste, il est très pro-français. Il y a les Deutschen, les Allemands, comme Thérèse au début, il y a de Deutschen, il y a, à bas les Deutschen, et les Welschen, les Belges. Et les Belges, c'est aussi bien un sol et latin, quoi. Un italien, un français du midi, un français du nord. Et manifestement, à Montpellier, il a appris le languedocien, qu'on appelle aussi l'occitan, sur profiter de notre vieille discussion.
Avec M. Higounet.
Oui, c'est ça. L'occitan, le languedocien, mais aussi le français, qui était quand même connu de l'élite à Montpellier. Et au fond, il traverse la France, il semble trouver tout normal de changer de patois progressivement, de dialecte. Ça lui, et comme il connaît à la fois la langue d'ossien et la langue française, ben il arrive et il se débrouille.
Oui, oui, c'est tout à fait frappant. Et,
vous savez que les Suisses sont habitués parce qu'ils cultivent leur dialecte. Alors qu'en Suisse romande, actuellement, les dialectes ont un peu disparu parce que les Genève exportaient des jeunes filles à Pétersbourg pour apprendre le français à l'aristocratie russe. Alors évidemment, ils ne pouvaient pas leur apprendre le patois de Genève, quoi. Mais tant qu'ils parlent bien français. Mais en revanche, les Balois continuent avec leur Schweizerdeutsch, qui est assez différent de l'allemand, du Hochdeutsch.
Et justement, puisque vous parlez de la Suisse, j'avais noté, il y a un éloge de la Suisse dans votre livre. C'est la première fois, moi, que je trouve un livre qui parle autant de la Suisse. Et ben, c'était un centre très important, déjà.
Ben moi, je suis un grand admirateur de la Suisse, parce que
j'avoue que...
Je trouve qu'ils ont fait coexister des Allemands, enfin, des germanophones et des romanophones, des Français, si on veut, depuis des siècles, alors que nous, avec les Allemands, on peut pas dire que c'est parfait. Et on y est venu avec l'Europe, enfin en habiletant. En outre, ils ont fait coexister dans la détestation mutuelle, mais sans se taper dessus, des protestants et des catholiques. J'ai un peu regretté que les Suisses votent contre l'Europe, parce qu'ils étaient vraiment un modèle pour l'Europe. Enfin, la Suisse, c'est une vraie démocratie, puisqu'on ne connaît pas même le nom de leur président. C'est oui. Bien ça, la démocratie.
C'est vrai. Et il y avait des échanges universitaires, alors. Vous montrez qu'il y a un Montpelliérain qui va à Bâle, le Balois qui va...
Il y a des échanges, oui. C'est-à-dire qu'il y a un axe, Bâle, Strasbourg, l'Alsace et Bâle, et l'Alsace, c'est du Paris au même, sur des gens qui sont... L'Alsace est entièrement germanophone à l'époque, il n'y a pas d'influence française. Enfin, il y a une influence française, mais on n'y parle pas français. Et Bâle, Strasbourg, Montpellier, par la vallée du Rhône, qui est un axe très important, et la vallée du Rhin. Et... Il y a pas mal d'étudiants de Bâle et Strasbourg qui viennent à Montpellier et inversement, plutôt des fils de commerçants de Montpellier qui vont à Bâle pour apprendre l'allemand de façon, enfin, une espèce d'allemand pour arriver à faire du commerce avec ces pays-là. Et on échange, au lieu de payer des pensions, on échange les étudiants.
C'est le programme Erasmus, un petit peu
avant la lettre. Erasme est un très, très grand homme, c'est un apôtre de la tolérance, bien considéré en Suisse, et Félix Plater note qu'il est né la même année que la mort d'Erasme, et pour lui, c'est une date capitale.
Oui, tout à fait. Pour revenir à un autre chapitre, je ne les multiplierai pas, mais il y a vraiment tellement d'entrées dans votre ouvrage qu'on peut le lire à divers niveaux, en dehors de l'histoire qui existe tout au long. C'est l'histoire de la médecine. Alors ça, c'est vraiment... Moi, j'ai évidemment tout appris. Je ne suis pas du tout césiémiste. Et ce qui frappe le lecteur, c'est le caractère incertain de la médecine. Et surtout, c'est au XVIe siècle. Et c'est votre œil très, très perspicace. D'abord, vous décelez des points de psychanalyse assez remarquables. Vous débusquez une phobie à un moment donné. Après, vous dites avec ironie, mais je ne sais pas si c'est de l'ironie, qu'en Allemagne, on ne borde pas les enfants, alors qu'en Montpellier, on les borde, et que les névroses méridionales viendraient de là, vous voyez. J'ai noté ça au passage, et j'ai fait mon anamnèse, c'est vrai qu'on me bordait, donc je suis en danger. Alors donc, ça c'était très... Et alors, ce qui me frappe, c'est que les remèdes de ces grands maîtres apparaissent limités. Par exemple, pour les vertiges. Tout le monde a des vertiges. Il lui dit, couchez-vous avec votre femme et levez-vous tard le matin. Et les vertiges lui passèrent. Alors, comment interpréter cette médication ?
Ben, je pense que c'est une médecine qui est peu efficace, dont la principale caractéristique, c'est les deux caractéristiques, c'est un retour au grec. C'est-à-dire que le Moyen-Âge La médecine est professionnalisée en Occident depuis le 12e, 13e siècle, avec les facultés de médecine qui sont, de ce point de vue, très modernes, avec la maîtrise, la thèse, un recours, une vue scientifique des choses, des diplômes, et de ce point de vue, les facultés de médecine sont vraiment le lieu de naissance d'une médecine scientifique. Mais la médecine elle-même n'était évidemment qu'assez peu scientifique, encore qu'il y avait certains éléments tout à fait corrects, mais peu. Donc, la médecine du Moyen-Âge s'inspire des Grecs, de Galien et Hippocrate, à travers les traducteurs arabes, qui ont beaucoup ajouté un peu. Et le XVIe siècle s'efforce de revenir aux Grecs en éliminant l'intermédiaire arabe. Donc, c'est une restauration de la médecine grecque, la médecine des humeurs, bile, sang, pituite, etc. Alors ça, c'est un côté peu scientifique. En revanche, la médecine du XVIe siècle fait faire des progrès de géant à l'anatomie. Est-ce que ça aide beaucoup aux soins? Peut-être pas, mais enfin, le corps humain est un continent qu'on découvre. À la différence de la médecine chinoise, qui est superficielle, qui connaît l'acupuncture, qui reste à la surface du corps, la médecine occidentale pénètre dans l'intérieur du corps et on commence à disséquer pas mal, y compris des cadavres qu'on va subrepticement déterrer dans les cimetières, etc. Alors, cela dit, l'exigence de guérison, c'est surtout Molière qui l'a formulée plus tard. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'un médecin, s'il ne guérit pas, est ridicule. Et c'est évidemment une exigence considérable qui a ridiculisé les médecins. Mais alors qu'il les a peut-être obligés à se perfectionner, mais jusqu'à Molière, au fond, un médecin, c'est quelqu'un qui vous accompagne dans un moment difficile de votre existence, qui vous parfois aide à vous guérir, parfois se borne à constater, évidemment, le caractère inéluctable de la mort. La première révolution de la médecine, c'est en 1628, c'est après l'époque que j'étudie, avec Harvey, quand Harvey découvre la circulation du sang. Alors ça oblige, ça fiche en l'air la médecine des humeurs, la médecine grecque. Ça n'est pas le cas autour de Platère. Cela dit, à Bâle, il y avait, ville de 12 000 habitants, il y avait 21 médecins, dont 15 ayant le doctorat et 6 empiriques. Les 15 ayant le doctorat sont souvent des gens très distingués, car un médecin à cette époque peut devenir pasteur protestant, professeur de grec. La culture des médecins est extrêmement vaste. Les 6 empiriques, il y a deux bourreaux, les deux bourreaux de la ville, qui sont d'une famille de bourreaux. Le père était bourreau, ils ont un frère bourreau aussi à Tübingen, je crois. Et tous les 4 sont très très doués, ils font pas mal d'argent en soignant les gens. Il y a un médecin juif, tradition juive la médecine. Il y a 2 femmes, dont une est la veuve d'un grand médecin, donc son mari a été formé par son mari, elle a beaucoup de succès, elle soigne les gens, et une autre femme, et un paysan. Alors ces 21 médecins, évidemment, soignent beaucoup à l'extérieur de Bâle, et en Forêt-Noire, dans le Jura, en Alsace, etc. Mais on peut dire que Bâle est surmédicalisé, d'autant plus qu'en réalité, les gens qui ont recours aux médecins, c'est l'élite, c'est les gens qui peuvent payer, c'est les nobles, c'est la bourgeoisie. Donc là, aucun problème. Maintenant, est-ce que les médecins guérissent vraiment? Ça, c'est un autre problème. En réalité, les gens les plus compétents étaient les chirurgiens, assez méprisés par les médecins, mais qui, eux, avaient de bonnes techniques. Et le beau-père de Félix Plater était chirurgien.
Oui, vous décrivez d'ailleurs bien la vie des étudiants en médecine à Montpellier. Ça n'a pas l'air d'ailleurs très agréable, très fort au niveau des études. Ils recopient beaucoup. Et est-ce quelle est la meilleure fac, à votre avis, celle de Bâle ou celle de Montpellier?
Parce que non, Bâle, c'est rien du tout.
Il va prendre son doctorat à Bâle, tout de même.
Oui, parce que, bon, c'est pour honorer le pays natal, mais les grandes universités de médecine vers 1550, c'est l'Italie, c'est Bologne, c'est Pise, c'est Ferrare, et Padoue, qui en particulier est le centre du rationalisme, du matérialisme qu'une certaine inquisition étouffera ensuite. Et en dehors de l'Italie du Nord ou du Centre, c'est Montpellier. Et puis peu à peu, la bonne médecine se transfère vers le Nord, mais un jeune homme qui veut réussir en médecine doit aller en Italie et à Montpellier. Et Montpellier, avec ses 200 étudiants, c'est plutôt une grande école. Ouais. On dirait aujourd'hui avec 3 ou 4 personnes qui font marcher la bureaucratie, 4 chaires professorales. Vous savez, la main n'a que 5 doigts, et il y avait cette grande idée que pour diriger, il faut avoir pas plus de 4 ou 5 personnes. Je ne sais pas s'il faut dire ça au gouvernement actuel, mais... et ensuite, ces 4 ou 5 ont chacune 4 ou 5 sous leur ordre. Donc, 4 professeurs qui élisent le chancelier, qui est le patron de l'université, et puis des docteurs qui sont sur place. Beaucoup d'autres docteurs ont quitté la ville et qui eux-mêmes donnent des cours. On recrute parmi eux un doyen, parmi les professeurs, parmi les docteurs, un doyen qui est une sorte de, comme un censeur dans un lycée, si vous voulez, qui s'occupe des horaires, que toutes les matières soient enseignées. Et sur ces 200 étudiants, sur 4 ou 5 ans, il y a 25% d'étrangers, dont pas mal d'Espagnols, mais qui sont assez tenus à l'écart. La France et l'Espagne s'entendent mal. Et puis des Allemands, beaucoup d'Allemands, souvent protestants, mais on leur fiche la paix quand même. Quelques Anglais aussi, des Italiens.
Oui, puis vous dites aussi, je poursuis mon interrogation, puis je vais donner la parole à la salle, bien entendu. Dernière question de ma part. Les rapports alors protestants, maranes, catholiques. Vous montrez combien les platers deviennent antipapistes, et vous leur donnez même le terme de cléricophobes. Vous êtes... ils sont, puisque ce sont eux qui parlent dur, mais enfin, c'est vous qui faites une excursion à Rome, quand même, parce que l'Italie est assez absente de l'ouvrage, pour des raisons d'ailleurs évidentes, c'est que les platers n'y sont pas allés, enfin, tout au moins dans ce tome. Hein. On nous trouve les Italiens cage, hein, avec Bandello, et vous dites que, finalement, dans Rome, à supposer que ses voyages l'entraînaient jusque-là, il lui trouvait maintes occasions d'exercer le don familial de cléricophobie. Et quand il arrive à Montpellier, vous parlez d'une espèce d'alliance, ce sera ma dernière question, entre les maranes et les protestants, qui préfigurent finalement les débuts de la Troisième République, si on transpose. Et alors ça, c'est vraiment très intéressant, si je comprends bien, sur 4 professeurs de médecine, il y a 3 maranes, qui reste proche du judaïsme, puisqu'il ne mange pas de viande de porc, vous le dites à un moment donné. Peut-être mange-t-il même cachère. Et c'est très intéressant de voir cette présence, alors moi que j'ignorais complètement, et la description de cette alliance contre le catholicisme dominant, c'est vraiment, ce sera ma conclusion personnelle dans cette question, vous faites vraiment l'histoire du vécu du XVIe siècle. Je crois qu'on découvre à travers ce livre très très bien les relations entre religions au quotidien. Et ça, je crois que c'est vraiment tout à fait passionnant.
Alors, les Juifs ont été expulsés d'Espagne, ceux qui ne voulaient pas se convertir, en 1492, et un certain nombre sont venus en France. Alors, il y a d'une part une communauté juive à Avignon, mais ne transposons pas les malheurs du XXe siècle au XVIe, ils vivent séparés, dans une situation de ghetto, mais les gens qui sont vraiment persécutés, c'est pas les rabbins, ce sont les protestants. Les pendaisons ne sont pas contre les rabbins, sont contre les pasteurs protestants, d'abord clandestins. Alors, à Avignon, ils mènent une vie de ghetto, mais en revanche, dans les villes comme Montpellier, Béziers, Lyon, probablement Toulouse et Bordeaux, qui a eu des grands maranes, y compris l'illustre famille Gradis au XVIIIe siècle. Ce sont des catholiques. Ils sont convertis. Alors, nous avons le cas d'un apothicaire marane qui a logé Félix Plater, incontestablement catholique. Il fait dire des messes à la Vierge pour l'un de ses fils qui est un bon arien. Mais protestant aussi, il n'aime pas les curés. Donc, il sympathise avec les luthériens, y compris les étudiants allemands. Il a une Bible qui ne doit pas être une Bible hébraïque, une Bible, je ne sais pas ce que ça pouvait être, dont il a déchiré le Nouveau Testament, il a gardé l'Ancien en tant que juif, et enfin, il fait circoncire ses fils et il mange la viande de porc. Donc, il a l'assurance tout risque, si vous voulez, la catholique, protestante et juif. Et on ne peut pas dire qu'il y a de l'antisémitisme, il y en a un petit peu à la fin du siècle, mais rien de bien grave. Et ces familles, du reste, sont évidemment fondues avec la, dans la bourgeoisie protestante et catholique. Pas mal de ces marraines sont devenues protestants, ont cessé de se marier entre eux et ont épousé donc des chrétiens protestants. Puis, avec la Saint-Barthélemy ou la révocation de l'édit de Nantes, ils ont rejoint le catholicisme. Et bon, peut-être certaines craintes, puis bon, une pression sociale et culturelle. Et encore aujourd'hui, à Montpellier, vous avez la famille de Saporta, qui descend d'un grand médecin juif du XIVe siècle, mais qui sont la noblesse catholique tout à fait classique de cette région, mais ne cachent pas du tout leurs origines marraines.
Bien, moi, j'ai posé la plupart des questions que j'avais notées, et si la salle désire...
Est-ce que, à l'époque où le plat de terre passe à Bordeaux, vous êtes sûr qu'il n'y a vraiment pas de problème entre les catholiques et les protestants ? Étant dans les queues, on estime qu'il y avait tout de même le septième de la population qui est protestant. Et les gens qui traitent de l'époque à travers Montaigne montrent bien, comme vous l'avez dit, que Montaigne fait partie des politiques à partir de... un peu avant la décision à la mairie de Bordeaux, mais 1540, 1550, 1560, il y a eu quand même des protestants persécutés, des exécutions, enfin, et qu'il y a à Bordeaux un fort courant prédigueur, ultra-catholique.
Oui.
Ce qui ne sera éteint que grâce à Matignon, en somme,
oui.
À partir de 1580.
Mais il reste, d'après les études qu'a fait M. Higonnet, notamment sur le Parlement de Bordeaux, que quand même le Parlement de Bordeaux, tout en ayant sur la conscience un certain nombre d'exécutions de protestants, est moins fanatique, disons, que le Parlement de Toulouse. Et on comprend qu'à Montaigne et à La Boétie aussi, aient pu y faire leur place. Je pense que le cas de Toulouse est tout de même un cas plus extrême que celui de Bordeaux, et cela dit, il y a des exécutions, il y a des persécutions, et les protestants souffrent, évidemment, et inversement, lorsqu'ils prennent le pouvoir, ne sont pas toujours entièrement tendres vis-à-vis des catholiques. Il y a une situation de conflit mutuel. Mais ce que j'ai souligné dans mon livre aussi, c'est l'étrangeté de la situation. C'est-à-dire que nous sommes sous Henri II, roi qui officiellement est anti-protestant, qui a sur la conscience pas mal d'exécutions. Il n'empêche que les universités, sont certaines d'entre elles au moins, ont des professeurs protestants et pratiquent même l'alternance entre protestants. C'est le cas de la faculté de médecine à Montpellier qui a basculé en bonne partie un petit peu vers des marranes, mais surtout vers des protestants. C'est le cas de l'université de Bourges. Alors, que se passe-t-il au fond? Il se passe qu'on brûle des lampistes, c'est-à-dire des gens qui ont eu l'imprudence compréhensible de leur part de faire de la propagande. Mais les nobles qui sont dans leur château, les grands professeurs dans leur chaire universitaire, s'ils ne font pas d'imprudence, on les laisse tranquilles et ils peuvent être protestants sous-marins, si vous voulez. Enfin, à Bordeaux, c'est encore mieux, mais... Donc, la situation est en fait assez complexe et Henri II, en particulier, respecte la noblesse. Et donc, ce sont quand même des frères de classe, si je peux dire, et donc le protestantisme se répand assez facilement dans la noblesse sans trop de risques. En revanche, le petit artisan protestant, s'il se montre trop, à court des risques.
J'ai une question sur la médecine à Bâle. Vous montrez très bien que Thomas Platin était fasciné personnellement par la médecine. Et au fond, presque, il aurait désiré ou souhaitait être lui-même médecin. Et vous laissez entendre un petit peu... Alors, ma question est la suivante. Est-ce que cette fascination était une fascination intellectuelle ou financière? Ou les deux?
Je pense que il y a cette idée à Bâle qu'une bonne façon, et aussi à Montpellier, une bonne façon de faire carrière, c'est d'être médecin. Puisque les médecins ont des chevaux, des domestiques, enfin, ils font belle figure dans la rue, etc. Songez quand même qu'en Italie, un professeur de médecine se rendait à son cours en litière, avec des porteurs qui le portaient dans sa litière et les étudiants en procession derrière lui. C'est pas du tout l'esprit de 68. Si vous voulez. Et bon, Et c'est donc pour Thomas Plater, le père, c'est quand même une vocation humanitaire, si on veut. C'est une fascination pour l'anatomie, la dissection. Manifestement, il est passionné. Il a connu Vézal, le grand anatomiste. C'est sa connaissance avec Epiphanius, un bon médecin de Venise qui était à Bâle, dont il a été le domestique. En ce qui le concernait, c'était fichu d'avance, puisqu'il ne pouvait pas s'inscrire dans une faculté de médecine, étant donné la bassesse de son origine sociale, etc. Pour son fils, en revanche, tout s'ouvrait, et donc le père a fait réaliser au fils ce qui était sa vocation à lui, au fils, et au fils cadet ensuite, et à toute la descendance, pendant plus d'un siècle.
Quel était le mécanisme économique de la progression sociale ?
Les montagnards, d'abord, étaient des gens de gros travailleurs, énergiques, vigoureux. Et donc, c'est classique. On disait dans les Alpes, en descendant, montez donc. Descendez l'altitude et vous montez dans l'échelle sociale. Bon. Et d'autre part, les pestes libéraient un certain nombre de places dans les classes supérieures où vous aviez pu avoir parfois le quart d'une population d'une ville pouvait disparaître à la suite d'une peste, donc il y avait des places à prendre. Ensuite, le protestantisme faisait des places puisque des catholiques devaient partir, étaient tués parfois, mais enfin surtout s'en allaient. Donc l'ascension sociale a toujours existé en toute époque, mais là, elle était particulièrement marquée. Et simplement, le cas des Plater est un cas extrême, parce que quelqu'un qui a été un petit mendiant très pauvre et qui fait souche de grands professeurs, après avoir été lui-même un imprimeur important et un grand pédagogue, ça n'est pas très fréquent. C'est à la fois typique et singulier.
Est-ce qu'il existe encore des livres qu'il a imprimés ?
Oui, j'en ai vu un à la Bibliothèque nationale. C'était il y en a plusieurs, mais l'institution chrétienne de Calvin, la première édition latine. Et le papier est toujours blanc et l'encre est toujours noire. Mais on ne pouvait pas dire tout ça de tous les livres du 19e siècle. C'était vraiment des produits de très grande qualité, certainement. On travaillait assez dur. Et d'abord, il y avait des cours toute la journée, alors que au XXe siècle, il y a l'hôpital, je crois, le matin et les cours l'après-midi, ou l'inverse. Là, il n'y avait pas d'hôpital, on n'avait pas de contact avec les malades, parce que ce qui intéressait la médecine, ce n'était pas le malade, c'était la maladie. Et alors, un étudiant un petit peu débrouillard comme Plater, ça s'arrangeait pour voir des malades, mais il y avait le danger d'être accusé d'exercice illégal de la médecine.
C'est vrai qu'il déterrait
Oui, alors des complices, elles déterraient des gens fraîchement enterrés pour que les étudiants puissent les disséquer. Puis c'était l'occasion de grosses parties de rigolade. Vous voyez, la nuit, on allait boire, manger. Il fallait faire rentrer le cadavre sous les portes de la ville. Enfin, c'était un sport. Il fallait payer le type, le sentinelle aux portes. Enfin, c'était manifestement des parties de copains. Il y avait un moine qui les aidait à faire ça. Enfin, Puis l'Église n'a jamais beaucoup aimé l'anatomie, la dissection et... Enfin bon, ça peut se comprendre aussi. Donc c'était un combat pour avoir des cadavres.
Vous avez parlé du tréponème
oui.
À Montpellier, à Bordeaux. Vous l'avez suivi à la trace, semble-t-il, depuis Naples. Le premier à Bordeaux serait venu de Naples.
Ah ben de toute façon, la syphilis en France vient de Naples. Il parle, c'est les armées de Charles VIII. C'est-à-dire qu'il a ramené de Naples des très beaux manuscrits. Et puis la syphilis, oui. C'est-à-dire que Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492. Bon, je sais qu'on discute, qu'on dit qu'il y avait de la syphilis en Europe, c'est possible. Mais enfin, moi, je pense que la thèse américaine est bien fondée. Et donc, par Barcelone, peut-être un second voyage, je ne sais pas, par Barcelone et Naples, la syphilis est arrivée dans le sud de l'Italie. Et là, l'armée française l'a ramenée en France. On appelait ça le mal français. En tout cas, le premier cas à Bordeaux, il y en a peut-être eu avant, mais il est signalé assez tard, oui, en 1520. Et on a alors les cures au mercure, les cures au gaillac, avec un bois qu'on faisait venir de l'Amérique centrale, et on était dans une pièce avec des fumigations. Je crois que ça avait un certain effet, mais insuffisant. Le mercure, en revanche, c'était plus efficace, et très douloureux, très lourd, enfin très, très dangereux aussi. Et malgré tout, la syphilis, quoique extrêmement dangereuse, surtout dans les débuts, n'avait pas le caractère implacable, totalement implacable du sida. Mais elle est tout de même en partie à l'origine du puritanisme, c'est-à-dire de la méfiance contre la prostitution. Et on voit bien, à partir de 1530-40, ça a pris un certain temps, les mesures de répression contre la prostitution, contre les maisons de tolérance dans les villes, etc., qui au Moyen-Âge, au contraire, étaient bien tolérées. Alors, est-ce que ça sera pareil pour le sida? Je ne peux pas vous dire.
Est-ce que dans l'ancien souterrain du 16e, ce plater, enfin ce plater vert qui était essentiellement tourné vers la latine, s'est également intéressé à la philosophie grecque?
Alors, il enseignait le grec et l'hellénisme par Erasme et par Castellion, enfin un certain esprit de tolérance grecque s'est certainement répandu sans que nous ayons les auteurs grecs que lisaient les fils, c'était surtout Galien et Hippocrate, mais je pense qu'ils sont imprégnés d'un humanisme effectivement plus ou moins grec, et en tout cas la première phase de protestantisme très marquée de Thomas Plater, c'est une phase hébraïque, iconoclaste, de destruction des images, alors que la deuxième phase, ça c'est à Zurich avec Zwingli, mais à Bâle, ville d'humaniste où l'influence d'Erasme, de Castellion est restée importante, disons que c'est une phase qui est davantage grecque et imprégnée de davantage d'esprit de tolérance, sans que ça aille très loin, mais quand même. Mais il cite assez peu leurs auteurs, et les principale tragédie qu'on joue à Bâle sur une sorte de théâtre populaire, c'est plutôt tiré de la Bible, l'Ancien Testament, comme Esther ou le Nouveau Testament, Saint Paul, etc. Saint Paul étant un saint très important pour les protestants. Oui, monsieur.
Vous me parliez d'une population de Bâle d'une douzaine de milliers d'habitants à l'époque. Quel serait le taux des gens qui savaient lire?
Oui.
C'est très important, je crois. Je suis situé.
Alors ça, je n'ai pas fait de recherche à ce sujet. Il est possible que les historiens de Bâle l'aient fait. En principe, le niveau d'alphabétisation était plus élevé dans les pays protestants. Je vous dirais à vue de nez, mais je dis sans doute une bêtise, peut-être 20% incapables de signer leur nom. Mais il n'y a aucun doute que les gens cultivés étaient très cultivés, avec des trous. C'est-à-dire qu'ils connaissaient les auteurs latins, grecs, la Bible, connaissaient la mythologie, connaissaient mal l'histoire, du moins les premiers Plater, le deuxième fils la connaît davantage, quoi qu'il soit moins intelligent. Mais il y a certainement une culture classique assez considérable.
Ce gamin qui suivait les étudiants de Petit Plater, Thomas, quand il... Je sais pas, il avait
6, 7
ans, 8 ans. 8 ans. Il faisait
des milliers
de kilomètres, c'était
par an. On devait faire pas loin de 40 kilomètres par jour, je pense. Parce que certains d'entre vous qui sont marcheurs savent bien que c'est faisable quand même. Les gens étaient très entraînés. Des milliers, enfin en tout cas, il a traversé au moins une fois l'Allemagne de part en part, et peut-être davantage. Mais il a attrapé des bribes de latin à droite ou à gauche, du côté de Dresde, de Breslau. Mais il n'a vraiment attrapé le latin pour de bon, puisqu'il n'était pas question d'apprendre l'allemand. On apprenait le latin, puis le grec éventuellement, que vers l'âge de 20 ans, après une errance de 10 années, à Célesta, justement, puis ensuite en Suisse. Ouais. Alors, par ailleurs, ce sont des gens très sales, oui. Et... En revanche, une fois en bourgeois, enfin accédant à une petite bourgeoisie, ils vont, semble-t-il, de temps en temps aux étuves. Donc ils se lavent de temps en temps. Et puis alors, par ailleurs, ben, souvent l'été, on se baigne dans le Rhin, mais c'est autre chose. Le Rhin qui était quand même moins pollué qu'il n'est maintenant. Il y a beaucoup de poissons. Tu vois, le poisson revient un peu dans le Rhin maintenant, grâce à diverses mesures.
J'ai peut-être une anecdote à ce sujet de la... Je pense que j'ai une anecdote au sujet de la Lelygienne. Et de la... Alors, elle est extrêmement récente. Il s'agissait de mon propre grand-père, et qui était né en 1857, et qui était étudiant au séminaire de, pas de Toulouse, mais d'une petite ville à côté de Toulouse. Eh bien, ayant à cette époque-là demandé un bain, son professeur lui aurait dit « Un bain, salope, il y a 30 ans que je ne me suis pas lavé les pieds. » Et donc, il n'y avait que les gens sales qui se lavaient. Donc, vous voyez, c'est très, je crois que la propreté corporelle est très récente.
Mais sans être votre grand-père, ça se situe vers quelle année, cette anecdote?
Probablement les 60, 65 à peu près. Il avait 13 ans environ, à peu près à la guerre de 60.
Parce que la bourgeoisie, quand même, avait peu à peu pris l'habitude de se laver un peu plus à la fin du 19e siècle, ça, il n'y a aucun doute.
C'était un professeur du séminaire.
C'était une plaisanterie.
C'est-à-dire, non, je pense que les ecclésiastiques... menant une vie de célibataire, je faisais peut-être moins d'efforts. Ce qui est un hommage à la pureté de leurs mœurs, ce qui, après tout, peut compenser.
Nous allons conclure. Moi, j'espérais vous coincer une fois, puisque j'avais trouvé, mais j'ai vérifié, vous aviez raison. Vous avez des très beaux passages, où on mange bien dans ce livre. Vous parlez des sols, des tons, des maquereaux, des sardines frites, des anguilles, des langoustes, des crevettes à plein panier, le tout cuisiné à l'huile. Et puis les soirs de carême, laitue, endive, oignon, châtaigne, ni fromage, ni fruits. J'ai dit, tiens, le grand maître est coincé. Il parle des endives qui sont de 1850. Eh bien non, j'ai bien fait de vérifier. Vous aviez raison là aussi, puisque l'endive, c'était la chicorée blanche. N'est-ce pas? C'est ça que... J'ai cru que...
Je n'ai pas le texte allemand.
Non, mais c'était la chicorée blanche, j'ai vérifié dans le dictionnaire d'alimentation.
Le mot, il me semble qu'en allemand, c'est endivien, mais enfin, il faudrait que je vérifie.
Mais en France, j'ai vérifié, vous aviez raison. Ouais. En tout cas, des livres de M. Leroy Ladurie sont à votre disposition, et l'auteur aussi, pour les signer éventuellement. S'il n'y a pas d'autres questions, nous vous remercions vraiment infiniment pour cette soirée.